Bonjour Evelyne, bonjour Valérie.
Bonjour.
Merci Diane. D'être là. Vous venez dans le studio pour présenter le travail de l'association Rencontre autour du deuil, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Ça s'appelle comme ça ?
Ça s'appelle oui. Comme ça.
Vous allez organiser d'ailleurs dans quelques jours à Guéret un groupe de parole. D'ailleurs, c'est le propos de cette association, c'est l'objet de cette association, c'est d'organiser des groupes de parole. Vous pouvez me présenter un petit peu ce projet ?
Tout à fait.
Evelyne, Valérie, qui souhaite parler en premier ?
Vas-y, commence.
Evelyne.
En fait, on a créé ce groupe de parole pour proposer du soutien aux personnes qui sont en deuil. Puisque de par notre propre expérience et par on voit que dans la société c'est très compliqué, c'est un sujet qui est très compliqué à aborder et donc c'était vraiment une proposition qu'on a déjà expérimenté d'ailleurs dans un autre cadre, le groupe de parole en lui-même,
ouais.
Parce qu'il existe déjà un groupe de parole sur le deuil périnatal qui se passe à Guéret avec l'association 1, 2, 3 parents. Et on voit que ça fonctionne, qu'il y a vraiment des besoins. Et là, c'est sur le deuil en général. Et les gens ont vraiment besoin, ont besoin de venir parler. Et c'est une structure qui nous convient bien, quoi, qui nous correspond bien à toutes les deux.
C'est une association qui est toute jeune, le projet est tout jeune. Vous venez de commencer les groupes de parole, c'est ça ?
Oui.
Ouais.
On l'a créé en janvier.
En janvier
là,
2025
le 25 juin, ça sera la deuxième.
Le deuxième groupe de parole que vous organisez.
Ouais.
Donc ça paraît un peu évident hein, de les groupes de parole et l'intérêt des groupes de parole, mais peut-être que vous pourriez nous expliquer l'une et l'autre la genèse de ce projet, la genèse de cette envie pour vous.
Alors, on s'est rencontrés avec Evelyne au cours d'un groupe de parole autour du deuil.
Alors attends, je t'arrête tout de suite, il faut que tu parles dans le micro.
Je suis trop loin ?
En fait, tu es en train de parler à côté.
D'accord.
Du coup, il faut que tu parles dedans. Ouais. Je veux bien qu'on... Valérie.
Je reprends ? Voilà. Ouais. Donc avec Evelyne, on s'est rencontrés pour le groupe de parole autour du deuil périnatal avec l'association 1, 2, 3 parents. C'est un groupe sur lequel j'interviens en tant que sophrologue formée à l'accompagnement au deuil. En discutant à la fin de ces groupes et en échangeant toutes les deux, on s'est dit que quand même il y avait un énorme manque autour du deuil et qu'il serait peut-être bien de proposer quelque chose aux personnes, quel que soit leur deuil, que ce soit deuil suite à une maladie, suite à des fois simplement la vieillesse, un accident, peu importe, qu'à partir du moment où les gens sont en difficulté, ils aient un endroit où ils puissent venir parler et poser tout ça avec nous.
Donc il y avait le deuil périnatal qui était donc des groupes de parole plutôt spécialisés.
Oui.
Et vous avez décidé toutes les deux de créer un groupe plutôt général, c'est-à-dire qui s'adresse à tout le monde.
Oui.
Sur tous les deuils.
Voilà.
Donc un proche, un ami, un voisin, un enfant évidemment.
Voilà.
Vous avez donc par votre parcours de vie et votre parcours professionnel un intérêt particulier pour cette question, l'une et l'autre, c'est ça ?
Complètement. On est concernés toutes les deux.
Ouais.
Maman endeuillée. Moi, j'ai connu le deuil périnatal en 94 et après le deuil de mon fils, le décès de mon fils aîné en 2013.
Et donc, vous avez immédiatement commencé à participer à des groupes de parole ou vous avez découvert cette manière de vivre et de gérer le deuil plus récemment ? Comment ça s'est passé, Evelyne ?
Non, j'ai expérimenté assez rapidement en rencontrant d'autres parents le groupe de parole. Et c'est vrai que quand on rencontre des personnes qui ont vécu la même expérience que vous, on peut parler librement, on se comprend, il n'y a pas de tabou, on peut tout exprimer, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment un espace de liberté et un espace pour se déposer.
Valérie, tu souhaitais dire quelque chose ?
Alors oui, comme Evelyne, je suis également une maman endeuillée. J'ai fait ma formation de sophrologue il y a 5 ans et dès le début de la formation, j'ai su que j'allais me spécialiser dans l'accompagnement au deuil. Donc, je suis une sophrologue généraliste, mais j'ai une partie de ma clientèle qui vient me voir pour un accompagnement au deuil.
Le deuil, comme toutes les questions difficiles et peut-être même toutes les questions tabous, c'est quelque chose qui véhicule beaucoup de faux-semblants, beaucoup d'erreurs. Pour préparer cette émission, j'ai regardé une vidéo d'un psychiatre que vous devez connaître toutes les deux, qui s'appelle Christophe Fauré, oui. qui est donc un des grands spécialistes français.
Une référence.
Oui, voilà. Et je vous propose d'écouter un extrait où justement il s'adresse à une audience, c'était en 2019, à laquelle il essaye d'expliquer tous les faux-semblants et puis ce qu'on imagine avec le deuil et ce qu'est pour lui et à ses yeux le deuil. On écoute ça et on se retrouve juste après.
Ce que vous vivez, ce que nous vivons, puisque nous sommes tous amenés à aimer quelqu'un, et ce quelqu'un va mourir, ou nous allons mourir, et cette personne va être dans le deuil, donc c'est un processus universel. Nous sommes tous dans ce processus, et pourtant, le connaître donne le pouvoir, pas le pouvoir comme ça, mais le pouvoir, pouvoir comprendre, pouvoir apprivoiser, pouvoir accompagner les personnes qui sont en souffrance, et surtout pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce que je peux éventuellement faire de ce processus, non pas de ce processus, qu'est-ce que je peux faire de cet événement de vie qui est la mort de la personne de cette personne que j'aime et comment apprivoiser cette souffrance qui ne va, soyons clairs, jamais disparaître complètement. Puisque deuil n'est pas du tout synonyme d'oubli, ça on va le voir. Donc ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est resituer le deuil dans ce que c'est exactement. S'il y a quelque chose qui fait mal, ce n'est pas le deuil qui fait mal. C'est la mort de la personne qu'on perd qui fait mal. La mort de son petit, la mort de son compagnon, de sa compagne, de son parent, d'un ami proche. C'est la mort qui fait mal. Et quand on a une blessure extrêmement profonde au niveau physique, il y a spontanément en nous, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, de décision, de force de caractère, d'une décision consciente, il y a un processus d'une extrême intelligence qui se met en place à l'intérieur de nous, au-delà de notre conscience, et qui va commencer à cicatriser cette plaie du mieux possible. C'est exactement la même chose avec la perte d'un proche. Autant la blessure physique va mettre en route automatiquement un processus de cicatrisation physique, autant la blessure psychique du cœur de la perte de quelqu'un qu'on aime va mettre automatiquement en route un processus qui est un processus de cicatrisation psychique. On lui a donné le nom de deuil. Processus de deuil. Donc on parle très clairement de quelque chose qui est naturel, nécessaire, indispensable, sinon on aurait une plaie complètement ouverte qui fait que notre intégrité physique, notre vie même serait en danger avec cette plaie, des infections et tout. Donc c'est cette intelligence qui est là pour la cicatriser. De même quand on perd un proche, et que son enfant, son compagnon, sa compagne, on se retrouve avec une plaie béante psychique et le processus de deuil est là pour essayer du mieux possible d'accompagner ça. Donc on a processus naturel au-delà de ce qu'on décide. C'est pas lié à la force de caractère et tout, c'est juste là. C'est la chose la plus puissante qu'il y a dans notre esprit. En revanche, si une plaie, par exemple, si vous la laissez aux quatre vents sans s'en occuper, bien sûr, le processus de cicatrisation va se faire du mieux possible, mais il faut mettre des conditions autour pour que cette cicatrisation soit la plus harmonieuse possible. C'est-à-dire, on va mettre des points de suture, on va nettoyer la plaie, des pansements, on va enlever régulièrement, ça fait mal, on remet, on nettoie la plaie, ça fait mal, on remet un pansement, ça fait mal. Tout le soin pour accompagner le processus de cicatrisation est douloureux. On a l'image dans le processus de deuil, tout le processus de deuil qui va accompagner la cicatrisation de la plaie causée par la mort de la personne qu'on aime est douloureux. Mais ce n'est pas le processus de deuil qui est douloureux par lui-même, c'est le décès de la personne. Il faut que ce soit bien clair dans votre esprit. Donc si ennemi il n'y a pas d'ennemi, mais si ennemi il y a, ce n'est pas le deuil, c'est la mort de la personne. Donc je vous invite à accueillir comme un ami, comme un allié, le processus de deuil. Confondez pas, vous ne braquez pas contre le deuil. Au contraire, c'est la chose la plus bénéfique qui se déploie en vous après la mort de la personne que vous avez perdue. Ok, c'est hyper important de comprendre ça. Et donc ces conditions favorables, c'est tout ce qu'on appelle le travail de deuil. Autant le processus de deuil, lui, se fait, la cicatrisation, elle se fait, autant le travail de deuil, c'est tout ce qu'on va essayer de mettre de façon consciente pour créer les conditions les plus harmonieuses pour accompagner ce processus de cicatrisation. C'est par exemple le pouvoir trouver des espaces pour parler, pour trouver des espaces pour poser sa peine, pour partager, pour avoir un regard sur soi, parce que le deuil est lié aussi au fait qu'il y a un être humain ou des êtres humains qui nous regardent et disent « Ok, je comprends ta peine, je comprends ce que tu es en train de vivre, parle-moi de ce que tu ressens ». C'est créer des conditions aussi de connaissance, et on va voir un petit peu ça aujourd'hui, pour comprendre le processus. C'est au fil des années, puisqu'on parle d'années, on ne parle pas de mois, on parle d'années de cicatrisation après cette plaie, il y a progressivement une promesse, une vraie promesse d'apaisement. Mais qu'on soit bien clair, l'expression « faire son deuil » n'a strictement aucun sens. Ça ne veut rien dire. Ça supposerait qu'il y a un début, un milieu, une fin. Non, on perd son enfant, quelqu'un qu'on aime, on est transformé à tout jamais. Il n'y aura jamais de fin. Le manque de cet enfant, de ce parent, de cet ami, sera toujours présent à tout jamais, mais même si après 15 ans ou 20 ans, on a toujours du manque quand on voit un beau paysage et qu'on dirait « mais oh, j'aurais adoré qu'il voit ça et qu'on sent cette douleur-là », on peut se dire oh, « bon, j'ai pas fait mon deuil parce que je ressens la douleur ». Non, ça fait comme si vous preniez une plaie qui est harmonieusement cicatrisée et vous tapiez dessus. Elle fait juste mal parce que c'est un point de vulnérabilité qui est là, mais ça ne veut pas dire que le processus n'a pas été harmonieusement mené. Donc il y aura toujours le manque, il y aura toujours la peine, mais le processus de deuil va créer, va placer la peine à sa juste place à l'intérieur de notre vie.
Vous êtes sur Radio Vassivière, nous sommes avec Evelyne Billic et Valérie Arnaud-Moutot qui présentent leur association Rencontre autour du deuil. On vient d'entendre un témoignage, un morceau d'une conférence du psychiatre spécialiste du deuil Christophe Fauré. Je vous ai vu écouter avec attention, opiner de la tête à énormément de choses. Peut-être que vous souhaitez commenter, j'ai relevé plein d'idées très fortes et qui peuvent nous aider aussi à comprendre, à mieux comprendre ce qu'est le deuil. Mais je vous laisse la parole, Evelyne, Valérie d'abord.
Valérie. Alors moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration.
Christophe Fauré, oui.
Oui, je trouve qu'il a fait un travail extraordinaire autour du deuil. Bah, évidemment, il est psychiatre et ce qu'il dit est très juste. Nous sommes faits pour faire nos deuils. Tout est en nous, en fait. Il y a très peu de gens qui vont faire ce qu'on appelle des deuils bloqués, c'est-à-dire rester dans la période de sidération. Et là, après, on parle d'un événement psychiatrique. Pour la plupart d'entre nous, le chemin va se mettre en route. L'intérêt du groupe de parole, c'est d'accompagner sur le chemin. C'est pas de faire le chemin pour l'autre, ni de lui dire « nous à ta place, il nous semble que… » Non, non, c'est pas ça. C'est être avec l'autre.
Evelyne ?
Il l'explique très bien d'ailleurs. Moi, je suis très réconfortée quand j'entends Christophe Fauré, parce que dans la société, quand on entend toujours des injonctions… Est-ce que le deuil est fait, faire son deuil, voilà, déjà, bah, il le dit bien, ça n'a pas de sens.
Il dit, oui, il faut vivre son deuil, il ne faut pas le faire, on ne fait pas son deuil.
Et souvent, les injonctions, nous, qu'on retrouve dans les groupes de parole...
Tu vas bien pouvoir passer à autre chose,
voilà,
etc.
Exactement, donc, ça. Et ça, c'est insupportable.
Comme si vous deviez dépasser la voilà. Souffrance que représente la
perte
d'un proche.
Il y a une méconnaissance, en fait, générale de ce qu'est le travail de deuil. Et ce qui explique bien et ce qu'on vit, nous, dans les groupes de parole, c'est effectivement cet espace où voilà, je reconnais ce que tu vis, je vis la même chose ou pas de la même façon, mais la base est la même. Et il y a cette écoute et cet accueil de ce que la personne vit et de ce qu'on peut partager. Et chacun, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est chacun à des stades différents. Donc chacun par son expérience, voilà, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas ce que dit Valérie, c'est exactement ça.
Et peut-être même que la notion de stade est erronée, puisque ça voudrait dire qu'il y a des parcours types, alors qu'en fait chacun vit la manière,
c'est pas le bon mot.
Vit les choses
voilà,
à sa manière
bon mot,
et à son
rythme. Mais disons qu'on en est à des périodes de deuil différentes.
Oui.
On peut, voilà.
Il y a des étapes un petit peu dans le deuil.
Voilà.
Il y en a qu'on passe très vite, sans savoir pourquoi. Il y en a qu'on passe beaucoup moins vite, mais peu importe. Nous, on n'arrête pas de le dire au groupe. Hé, tranquille, c'est votre deuil. C'est tellement personnel.
Donc, dans les idées fortes que défend ce psychiatre, Christophe Fauré, il y a donc l'idée qu'il faut abolir l'expression « faire son deuil ». Oui. Il préfère donc vivre son deuil. Il y a aussi des choses qui sont vraiment intéressantes. Cette explication qu'il a du processus de deuil qui se met en place naturellement, comme une cicatrisation se met en place naturellement pour toutes les blessures de notre corps, et à laquelle on peut ajouter donc du travail de deuil. Donc, le processus de deuil, c'est la chose naturelle, et le travail, c'est ce qu'on va pouvoir faire soi-même pour accompagner ce processus, ce chemin, et cette chose qui va nous accompagner toute notre vie, parce qu'on ne fait pas et on ne sort pas du deuil, on vit avec son deuil et on apprend à vivre avec, c'est ça ?
C'est ça.
Et comment donc concrètement, j'ai pas pu assister ou venir voir votre groupe de parole, comment ça se passe concrètement, les gens parlent, vous faites des tours, vous pouvez me raconter ?
Alors, les gens, pour notre premier groupe de parole, là, nous avions 4 personnes, donc chacune avec en plus des histoires de deuil totalement différentes. On allait de l'accompagnement à la fin de vie au suicide. Enfin, on, pour ce premier groupe de parole, c'est vrai qu'on a été très étonnés de voir qu'on avait autant de cas de figure, si j'ose dire. Voilà. Donc, les gens parlent librement, se présentent, échangent les uns avec les autres. Nous, on est là plutôt pour guider le groupe, pour qu'il y ait un temps de parole respectueux et à peu près identique les uns avec les autres.
Mais il y a des personnes qui peut-être ne souhaitent pas parler, souhaitent juste assister. Est-ce que c'est autorisé ?
Oui, tout à fait.
Ah oui.
Après, mais on demande quand même que la personne...
Il faut que ce soit équilibré, c'est-à-dire qu'aucune personne ne monopolise toute la parole et donne le sentiment aux autres qu'elles ne peuvent pas ou ne doivent pas parler.
Tout à fait. Mais en fin de compte, nous, on s'est fait la réflexion après ce groupe avec Evelyne que les choses se font très naturellement. Il y a beaucoup de respect, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'a priori, les gens prennent la parole. Alors des fois, on se questionne tous autour d'une phrase qui vient d'être dite et on cogite et on fait... Alors, des suggestions, peut-être que ça, ça pourrait nous amener à ça. Mais en aucun cas, on a ni la prétention, ni l'envie d'imposer quoi que ce soit. C'est leur groupe.
Et c'est aussi votre groupe, non ?
Oui.
Ou est-ce que vous-même, vous racontez votre expérience, votre parcours, les choses que vous avez vécues, les manières...
Ah oui, nous,
manières,
on peut participer.
Totalement.
Quand il y a une expérience qui peut nous interpeller, on partage aussi, nous, notre propre expérience. Ce qui est important dans les groupes de parole aussi, pour les gens qui ne connaissaient pas, c'est de poser le cadre dès le départ.
Oui.
Parce que voilà, chacun parle son tour. On respecte, nous, comme dit Valérie, on gère le temps, mais voilà, c'est pas une discussion comme on peut le faire avec des amis, parce que souvent les discussions, ça répond, on envoie des trucs, là c'est vraiment posé. On écoute la personne quand elle parle, quand elle a fini de parler, on passe à. Voilà, il y a vraiment un équilibre.
Quels sont pour vous les enjeux de ce travail sur le deuil que vous proposez ? C'est une des manières, j'imagine, il doit y en avoir autant qu'il n'y a de personnes. Chaque personne peut se ressourcer, vivre son deuil comme elle a envie. Mais quel est l'enjeu pour vous de la participation à ce type de groupe et puis l'enjeu pour vous personnellement de créer cette association, de créer ces groupes de parole ?
Pour moi, c'était pouvoir donner un peu ce que j'ai reçu.
C'est-à-dire
que j'ai été tellement soutenue, aidée, et j'ai trouvé tellement de bénéfices...
Dans le deuil de vos deux enfants.
Dans les groupes de parole.
Oui,
voilà.
Pour vivre le deuil de vos deux enfants.
Pour vivre le deuil de mes enfants. Qu'aujourd'hui, je me sens en capacité de le faire, ce qui n'a pas été le cas, évidemment, au début. C'était pas possible. Aujourd'hui, je sens que c'était le moment, quoi. Voilà.
Juste par curiosité, vous étiez déjà en Creuse en fait, au moment du deuil de vos enfants, parce que, pour
du
que
tout.
Je comprenne
non.
comment vous avez vécu donc, une aide et vous avez décidé de la reproduire là où vous habitez. Comment ça s'est passé
le deuil en 1994, le deuil périnatal, En habitant en Saône-et-Loire.
Donc périnatal, juste, périnatal, excusez mon ignorance, c'est avant la naissance,
ou après,
avant
après.
L'accouchement ou juste après, ou après.
Alors, il y a différentes écoles, il y a différentes données maintenant autour du deuil périnatal. Pour certaines organisations, le deuil périnatal peut aller jusqu'à un an après la vie, après la naissance, pardon.
Ce qu'on appelle aussi la mortalité infantile dans les statistiques.
Voilà. Ouais.
Donc voilà. Donc
moi c'était 94, une interruption médicale de grossesse à 4 mois de grossesse. Voilà, ouais. Un bébé non viable et la décision a été prise de faire une interruption médicale de grossesse.
Et ça, vous aviez été accompagnée déjà ou à l'époque?
Absolument pas.
Absolument
en 94. Oui, en 94. Alors là, effectivement, à l'époque, on habitait
comme...
en
comme une procédure médicale, quoi.
Ah c'est, oui, complètement. Oui, un acte médical.
C'est
un
ça.
Acte
je suis rentrée médical. Chez moi. Au revoir, madame. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Et puis, et après...
Et même autour de vous, parce que dans ces cas-là, en général, il y a les proches qui attendent. Enfin, tout le monde vit aussi ce deuil ou cette...
C'est la complexité du deuil périnatal, oui. Surtout avant la naissance, où là, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. 4 mois de grossesse.
Il y a souvent que les parents qui se sont projetés dans cette naissance, en fait. Mmh. Ce bébé, il est au papa et à la maman. Et pour la famille, c'est compliqué... Alors, bien sûr qu'ils sont là, dans la plupart des cas, il y a une forme d'accompagnement, mais ça reste quand même une histoire de couple, je trouve.
Et parfois, ça se passe même avant les 3 mois où beaucoup de personnes attendent. Donc là, c'est encore plus dur. Parce
les fameux 3 mois.
Ouais.
Ce qu'on appelle les fameuses fausses couches,
voilà.
Qui peuvent être vécues comme... C'est un deuil périnatal, une fausse couche.
Voilà, et d'ailleurs, ce mot, il est horrible. Hein. Si on l'analyse un peu... Fausse couche.
Comme si c'était un faux bébé.
C'est le déni dès le nom, en fait.
Ouais.
On est d'accord.
Et donc, en 94, première expérience.
Ouais. Alors, quelques années après, pas sur le moment, mais on a déménagé à Nantes. Et à ce moment-là, je suis allée dans une association qui s'appelle Apprivoiser l'absence.
Et parce là, que j'ai vous rencontré... sentiez, en fait, que c'était un
manque... Parce que j'avais
qui...
besoin d'en parler, parce qu'à l'époque, Internet n'existait pas, donc j'avais écrit dans un magazine...
Ça existait, mais c'était moins présent.
Enfin bon, moi, s'il y avait le Minitel, où j'ai... voilà, c'était vraiment très succinct. Et j'avais écrit dans un magazine de... Magic
c'est-à-dire...
Maman, ça s'appelait, je crois,
vous aviez écrit...
J'avais
des
écrit,
lecteurs.
Mais oui, parce que j'étais toute seule, et c'était horrible, quoi. J'étais vraiment dans un désespoir, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'avais reçu plein de courriers.
Quand vous dites « je ne comprenais pas ce qui arrivait », parce que vous aviez l'impression de rester figé, bloqué dans ce deuil, d'être triste en permanence.
Ah bah complètement.
Ouais.
Et mon fils aîné, c'était pas mon premier, c'était ma deuxième grossesse.
Donc vous aviez déjà mon fils aîné. Vous aviez déjà votre fils aîné, ouais.
Mais néanmoins, il y avait cette incompréhension, voilà. Et Christophe Fauré, c'est fantastique, parce qu'il explique. Moi, personne ne m'a rien expliqué.
Ouais, on vous disait « ça va ».
Même l'acte médical, il n'y a
pas
eu
de deuil en ce qui vous concerne.
Ouais, ben non, rien.
Vous en
rien
ferez d'autres.
Vous en aurez d'autres, t'en auras d'autres.
Ouais, voilà. Ça fait partie des phrases magiques qu'on adore dans le groupe de parole.
Ouais.
Ne vous inquiétez pas, vous en aurez d'autres.
Il y en a une petite collection qui est pas mal.
Oui.
D'où l'intérêt, justement, de parler, d'échanger entre nous, entre les personnes qui ont vécu ça. Et là, je me suis rendu compte, le groupe j'ai rencontré d'autres mamans qui avait vécu la même chose que moi.
Donc ça, c'était dans les années 90, toujours ?
Ben oui, 97. À partir de 97, oui, j'ai mis quelques années quand même à bouger. 97, 99.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté à l'époque ?
Eh ben, ça m'a apporté un lien. En fait, c'est le lien humain. C'est tout simple. Ça a l'air simple quand on dit ça. Mais c'est juste ce dont on a besoin. Le lien humain pour comprendre, pour échanger, pour se retrouver avec des personnes avec qui on peut parler de ça, quoi.
Peut-être la verbalisation aussi des choses. En écoutant, on apprend soi-même à verbaliser.
Tout à fait.
Et puis échanger également avec des gens qui l'ont vécu. Enfin, on parle d'expérience personnelle. Enfin, quand on reçoit alors on a eu un papa dans notre groupe au tout début de l'ouverture. Et quand on reçoit ces personnes au groupe, eh ben ils nous disent toujours, en fait avec vous on peut parler parce que vous savez. On dit souvent qu'on parle la même langue.
Parce que c'est difficile aussi pour les autres personnes, y compris les proches, d'aborder le sujet.
On est bien d'accord.
On se dit, c'est pas le moment, là elle est heureuse, il est heureux, je vais pas casser l'ambiance, etc. Mmh. C'est souvent les personnes en deuil qui sont obligées de banaliser la conversation autour de ça, l'amener dans la conversation pour que les autres se rendent compte qu'on peut en parler, même à tout moment, sans que ça plombe l'ambiance.
Complètement. Il n'y a pas que le couple qui est en deuil, en fait. Toute la famille, tous les amis, tout le monde va se retrouver en deuil de ce bébé qui n'arrivera jamais, en fait, de cet enfant qui n'arrivera pas. Alors souvent, il y a un processus de ben, moi, j'aimerais bien en parler avec ma mère, mais ma mère me dit, mais moi-même, j'ai fait des fausses couches, tu es en train de réactiver des choses. Enfin, vous voyez, alors que là, elles viennent dans ce groupe. C'est, alors, y a des, on rigole, mais c'est impressionnant.
Oui.
On prend des fous rires, mais surtout autour de nos phrases magiques. On entend des choses tellement extraordinaires. On envisage quand même d'écrire un bêtisier, franchement. Parce qu'on a une série de petites phrases magiques qui est juste incroyable.
Je ne sais pas si vous pouvez les partager, que ça fonctionne hors contexte, mais... Comme
oh,
quoi,
alors, la phrase magique bateau, c'est « vous inquiétez pas, vous en aurez d'autres ». On a eu « oh bah vous, c'est pas trop grave, nous, nos voisins, ils avaient déjà refait les papiers peints, t'imagines ?» Il vaut mieux maintenant qu'à 18 ans d'un accident de moto, et jamais. Ouais. C'est pas possible, jamais, en fait, de perdre un enfant, c'est bien ça aussi. Voilà, donc oui, il y a des trucs qui sont assez impressionnants, mais bon. Mais les gens ne les disent pas par méchanceté, en fait, ils ont tellement peur du vide. Ils ont besoin de dire quelque chose, alors que des fois, ses parents, ils ont juste besoin qu'on leur dise « on est là, si tu as besoin, je suis là, dis-moi ». Voilà, ça c'est bien.
Et Evelyne, vous racontiez donc votre premier deuil, qui était donc un deuil périnatal, ces deuils qui, à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, je l'espère en
oui,
tout cas, passaient inaperçus et têtus.
Oui.
Et vous avez eu donc le malheur de vivre un autre deuil d'enfant. Quoi.
Oui, alors justement... Quand Valérie dit des phrases, là. Bah oui, vaut mieux qu'à 18 ans. Bah oui, bah moi, le deuxième deuil, 22 ans, mon fils aîné. Ah ben là, de toute façon, dans tous les deuils, c'est la mort qui fait peur. Donc la mort, elle on se prend ça... c'est un sujet tabou. Donc, où trouver un espace pour pouvoir en parler librement ?
Et là, dans ce cas, vous aviez vécu donc les deux expériences sociales, celle d'un deuil qui ne dit pas son nom, et ensuite d'un deuil où là, j'imagine que c'est une sidération
oui.
générale.
Oui.
Et là, ça passe pas du tout inaperçu. Vous
non.
vivez quelque chose de complètement différent.
Oui, c'est différent. Le processus n'est pas le même. Là, il y a le processus de deuil, évidemment, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Beaucoup de gens s'identifient, tous les parents autour, j'imagine, s'identifient,
oui,
sont
oui.
terrifiés
oui.
par
le deuil
par
d'un
ça.
Enfant. C'est vrai que de toute façon, quelque part, c'est inintégrable.
Ouais.
Donc c'est pour ça que c'est très important ce que dit aussi Christophe Fauré. C'est comme une cicatrice. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a ce processus naturel, mais qu'est-ce qu'on va faire comme travail dessus pour, enfin. Améliorer la cicatrisation pour retrouver la vie, pour revivre de façon plus sereine, changer le regard aussi. Et ça, moi, dans mon parcours, le groupe de parole en a fait partie.
Ce que je trouve intéressant, juste, mais Valérie, je sais que tu allais parler, mais dans les paroles de Christophe Fauré, c'est qu'on voit aussi à quel point la parole libère,
oui.
la parole permet de comprendre. On voit en fait la force de la parole. Là, le son est mal pris, c'est presque désagréable à écouter. Mais les mots qu'il utilise et les choses qu'il explique ouvrent des portes de compréhension et pas de guérison, mais en tout cas de nous permettre d'orienter nos forces dans la bonne direction, de comprendre aussi peut-être les faux amis qui sont très fréquents sur des questions comme celle-là, la société qui donne des injonctions qui sont en fait des voies sans issue, faire son deuil, dépasser son deuil, etc.
Qui culpabilisent,
qui sont en fait des très mauvais conseils et où la sagesse populaire est peut-être presque d'aucune aide, j'ai l'impression.
C'est
en
pas
tout cas,
du tout sage, en tout
cas,
fait.
Ouais, c'est pas sage du tout. voilà. Et Valérie, je trouve que ça souligne l'importance de la parole, en fait.
Ah ben moi, je suis convaincue que la parole, elle est salvatrice, en fait. C'est ce qui ressort à l'intérieur de ces groupes. Il y a une chose aussi qui est très importante pour nous deux. On a toujours fait attention à ne pas comparer les deuils des gens qui viennent nous voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des deuils. Oh, mais là, c'est juste pas possible. Et un deuil, ouais, mais là, enfin, c'est votre maman, elle avait 98 ans. Les gens qui viennent nous voir sont dans un deuil qui les fait souffrir et pour lequel ils ont besoin d'aide.
C'est comme toutes les séparations, en fait. C'est ce qui est important, c'est ce qu'on a dedans, c'est l'affect qu'on a investi dedans. C'est pas,
je crois que ce n'est pas l'épreuve qui a un sens. C'est ce qu'on va en faire, en fait. Que faisons-nous de nos épreuves en tant qu'humains ?
Et la manière dont on vit une épreuve, c'est propre à ce qu'on a projeté dedans aussi, c'est propre à ce qu'on a investi dedans.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez eu des... Vous avez donc, ça va être votre deuxième groupe de parole. Est-ce que vous avez pu échanger, avoir des retours ou par votre expérience, qu'est-ce que c'est les apports de cette partie du travail du deuil, la partie de groupe de parole collective? Qu'est-ce que c'est les apports qu'on a pu vous rapporter ou que vous avez eu vous-même?
Il y a actuellement des psychologues et des médecins qui nous envoient des personnes sur ce groupe de parole.
Je ne voulais pas dire comment vous êtes approvisionné en personne, mais qu'est-ce que c'est les apports pour les personnes? Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui viennent?
Ça leur fait du bien. On crée une dynamique autour de cette problématique. Elles savent qu'on se voit de façon régulière, que c'est un lieu qui est neutre et pas dans le jugement. Et tout ça, c'est, je crois que c'est juste, c'est quelque chose de très simple, un groupe de parole, en fait.
Elles se sentent soulagées. Elles se sentent soulagées, reposées, même. Et écoutées. Et vraiment, c'est ça, ce qu'on a entendu, c'est oui, ça fait du bien de pouvoir parler, ça fait du bien d'être écoutée, sans jugement, sans conseil. Et ça, c'est pas habituel dans la société...
On comprend très clairement, en tout cas, en vous écoutant, et on aurait compris même sans vous écouter, peut-être l'importance de ce type de rencontre. Peut-être que ce qui m'étonne, c'est la... vous dites que c'est régulier, mais c'est assez rare. Vous aviez votre première qui s'est passée entre maintenant et le début de l'année, donc entre janvier et maintenant. Je ne connais pas la date de votre première rencontre, mais là, la prochaine, c'est en juin. Ensuite, c'est en septembre, puis en novembre. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce sont les moyens que vous avez aujourd'hui? Et puis peut-être aussi, vous avez fait l'effort, Evelyne, vous êtes venue me voir ici au studio pour communiquer, faire savoir qu'il y a ce groupe. Et Valérie aussi, vous étiez là toutes les deux. Vous étiez là toutes les deux. C'est Valérie qui avait dit, ok, j'ai eu un doute. En tout cas, vous avez l'envie que ça se sache et puis que ça se répande. Oui. Peut-être qu'il y a moyen, donc est-ce qu'il y aurait moyen d'en faire plus? Est-ce que c'est nécessaire? Et puis peut-être de répartir géographiquement, parce que c'est toujours plus simple que deux personnes se déplacent vers un groupe de 10 personnes que plutôt que 10 personnes aillent vers les deux.
Tout à fait. Etc. Ouais. Alors donc, moi, je veux bien rebondir sur cette question. Alors, cette année 2025, pour Evelyne et moi, est une année de rodage, en fait. On essaye ce groupe, on voit comment on peut travailler ensemble. À côté, moi, j'ai également le groupe autour du deuil périnatal et je suis toujours en activité professionnelle. J'ai un cabinet en libéral sur la souterraine. Donc, il faut que j'arrive à caser tout ça dans ma vie à moi. Et le but du jeu, c'est pas qu'à la fin de l'année, je dise à tout le monde, je vais arrêter parce que je fais un burn-out. Donc, il faut que je trouve mon équilibre au milieu de tout ça. On y va tout doucement. Bien sûr que si demain, une association, une commune veut nous accueillir, mais pourquoi pas? On est très ouverte. D'ailleurs, Evelyne fait quelque chose sur Saint-Domé.
Là où...
Champagna, oui.
Champagna.
Oui, c'est juste à côté. Oui.
Ouais. Voilà.
Il y a un petit groupe. En fait, c'est par connaissance, ma voisine qui connaissait des veuves.
Vous avez créé un groupe
et donc, de manière naturelle. L'autre fois, c'était 4 personnes, 4-5, qui se connaissaient. Donc... voilà, ça s'est fait tout simplement, quoi. C'est à côté de chez moi, ça a duré 1h30 et elles étaient contentes, quoi. Et on a repris une date en septembre.
Et puis peut-être que pour toi, Valérie, dans votre position d'organisatrice, peut-être que c'est aussi une charge, pas qu'une charge mentale, mais aussi une charge émotionnelle forte. C'est peut-être pas la même chose que quand on vient se confier ou non. Pour vous, vous bénéficiez autant que les autres personnes qui participent de ces groupes. Je ne sais pas si tu comprends ma question.
Alors, ce que tu me demandes, si c'est émotionnellement, oui. Ces groupes, ils m'impactent, en fait.
Oui, puisque... voilà,
alors, bien évidemment qu'il y a des histoires qui m'impactent plus que d'autres. Mais c'est mon métier, en fait, d'accueillir des gens et d'écouter. Donc, je sais me mettre à la bonne distance et mettre les choses à la bonne distance. Mais oui, mais moi, si demain, je dois pleurer au milieu d'un groupe, je pleurerai au milieu d'un groupe. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Je suis une humaine avant toute chose. Hein. Et mes émotions, au même titre que celles des autres. Voilà.
Et Evelyne, comment tu vois, toi, ta position par rapport au groupe, ton apport?
C'est pareil, sauf que moi, ce n'est pas mon métier. Mais je dirais que par mes expériences de vie... Moi, j'ai fait une formation en CNV, en communication non violente. Donc, heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon, j'aurais été incapable d'écouter quelqu'un qui parle en face de moi. Voilà, j'ai appris comment ça se passe dans la communication.
Je comprends pas, pardon.
La communication non violente, oui, c'est un processus d'écoute. Moi, toute cette formation que j'ai faite sur un an, en 2015-2016, ça a changé ma façon
d'écouter,
de recevoir, de parler, voilà.
Comment ça a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'était pas applicable avant et qui l'est maintenant ?
Eh ben, on le voit dans les groupes de parole entre personnes qui se connaissent, par exemple. C'est que y en a une qui va dire quelque chose, tout de suite l'autre va rebondir. Oui, mais tu devrais peut-être faire ci, tout de suite. Et souvent dans les discussions, ça part comme ça.
Ouais.
Oui, mais tu devrais peut-être faire ça. Tiens, je te donne cette idée-là. Mais
et ça,
non,
c'est une forme de communication violente plutôt.
Ah, oui.
Oui, oui. Parce qu'il y a des injonctions, parce qu'on coupe la parole, parce qu'on se place au milieu de...
Tout à fait.
Parce qu'on se positionne trop.
Et donc, c'est quoi ce qu'il faut faire ?
Parce qu'on se positionne trop, c'est ce qu'on fait dans les groupes de parole, c'est vraiment laisser la parole à la personne. Et on n'a pas à dire, on n'a pas à donner notre avis, en fait, c'est ça.
Ni ensuite partager ou systématiquement partager son expérience en résonance avec celle de la personne.
Pas forcément, non. Si la personne ne le demande pas, on ne le fait pas.
Et ça, vous arrivez aussi à le transmettre aux autres
c'est-à-dire... Ah ben c'est pas notre but, après chacun son chemin.
Mais pour votre groupe, c'est important, j'imagine, qu'il n'y ait pas une personne qui vienne se mettre au milieu des histoires des autres en permanence.
Ah ben ça, c'est,
c'est, oui, c'est à nous de réguler tout ça, en fait.
Ouais. Oui, oui, oui.
Mais tu vois, quand on a commencé à vouloir mettre en place ces groupes, alors Evelyne, pleine d'énergie et de bonne intention, a dit « Ouh, mais tu sais, on pourrait monter jusqu'à
10
personnes pendant 3 heures ». Et je lui dis,
ça va pas être possible.
On va se détendre un petit peu, on va descendre le timing, on va descendre le nombre de personnes, et tu vas voir que déjà au bout des 2 heures, le premier groupe qu'on a reçu là, quand elles sont toutes parties, on s'est regardées, et je lui ai dit alors, elle me dit, c'est bien 2 heures.
Ah oui, oui, moi j'ai pas cette expérience, donc j'ai écouté Valérie, et sur le nombre de personnes aussi, c'est pareil, il faut limiter.
Il faut que tout le monde ait un espace, en fait.
Oui.
Une bonne transition peut-être pour se quitter sur des infos pratiques, parce que vous dites donc ça dure 2 heures. La prochaine, c'est le 25 juin. C'est à quelle heure ? C'est plutôt, j'imagine, en dehors des heures de
travail.
Ah, donc c'est plutôt pendant les heures de travail. Donc 14h30.
Mais on a loué une salle, en fait, à la quincaillerie, et c'est le mercredi après-midi.
Donc c'est à la quincaillerie, à 14h30, le 25 juin.
Ouais.
Ça dure 2 heures. Quelles sont les modalités d'inscription ? Est-ce que c'est gratuit ? Est-ce que c'est payant ? Est-ce qu'il faut vous contacter
avant ? C'est gratuit, et c'est moi qui gère l'administratif. Donc il y a mon téléphone sur le...
Peut-être
qu'il
faut le rappeler.
Il y a un téléphone et un mail.
Est-ce que vous pouvez le rappeler ? Sur le flyer. Sur le flyer.
Sur les infos.
j'ai pas le flyer. Donc il y a un téléphone, un mail sur le flyer. Est-ce qu'on peut le rappeler peut-être à l'antenne, 2 fois, je crois, la règle pour le téléphone ou un mail pour vous contacter. Donc c'est...
Alors, 06
13
28
83
32.
On le redit une fois.
06 13 28 83 32.
Et donc, c'est normalement Evelyne Billy qui répondra.
Non, c'est pas Evelyne. Le mail, c'est Rencontre autour du deuil. Non. J'ai un mail spécial.
Mais c'est Evelyne Billy qui répondra au téléphone.
Ah oui, c'est moi.
Oui, c'est Evelyne qui répondra pour l'association Rencontre autour du deuil.
Tout à fait.
Et le mail, c'est
Rencontre autour du deuil.
Au pluriel,
tout attaché,
rencontre.
Oui.
Rencontre autour du deuil, tout attaché au pluriel pour rencontre.
@gmail.com.
Valérie, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non.
Et donc, c'est gratuit ou c'est prix libre ?
Oui,
c'est
gratuit. Oui. Non, c'est gratuit. Et ça, on y tient vraiment. Justement, à l'origine de la création de ce groupe, excuse-moi d'être un petit peu lente dans mon raisonnement, pour nous, il était essentiel que l'aide puisse être accessible à tout le monde. Mmh. Voilà.
Donc, il n'y a pas d'enjeu d'argent
Rien.
Rien du tout.
Ni de célébrité, ni de rien du tout. On est juste là, entre humains, pour essayer de s'écouter, de s'accompagner.
Et donc, ça dure 2 heures, c'est sur inscription. Vous acceptez combien ? 4 personnes, 8 personnes ?
On s'est fixé 6 là.
Oui. Il y a encore de la place pour
le prochain. Il y a encore une
place pour le 25 juin.
Voilà.
Donc, à Guéret. Et la rencontre suivante, c'est le 10 septembre.
Oui.
Même lieu, même horaire.
Même motif, même punition.
Oui.
Donc, à la quincaillerie de Guéret à 14h30 le 10 septembre.
Ouais.
Et à nouveau le 12 novembre à la quincaillerie de Guéret.
Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé qui vous semble important ? Ou que vous souhaitez partager avant qu'on se quitte ?
Non, je crois qu'on a fait le tour des choses
Evelyne.
Et que Moi, je voulais te remercier pour la qualité de ton accueil.
Bah, merci, voilà. Merci oui. à vous.
Et la super qu'on... préparation.
Oui.
Ouais. Vraiment, Christophe Fauré, c'est top.
Christophe Fauré. Et ce qu'on dit pas, c'est à quel point il fait chaud dans
ouais,
le
studio. Oui, ça. Moment.
Il fait hyper chaud aujourd'hui. Voilà. Mais on a réussi à survivre. On a quand même ouvert la porte qui, normalement, doit rester fermée pour respirer un coup. Merci de votre visite.
À
très bientôt.
Merci à toi.
Et
merci beaucoup.
Et donc, à suivre.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.